France Inter.
Quand les dieux rôdaient sous la terre, il y a très longtemps en Grèce, si les dieux allaient sous terre, c'est que ça allait mal dessus. Beaucoup de gens à Athènes disaient « c'était mieux avant, c'était mieux, beaucoup mieux ». Quand Athènes était encore glorieuse, quand cette cité magnifique avait la force de s'opposer avec panache et succès à l'envahisseur perse, qu'Athènes a vaincu à Marathon et à Salamine. Quand Athènes, avec ses bateaux et sa puissance, avait pu se constituer un empire dans les îles de la Méditerranée et sur les côtes de l'Asie mineure. Quand Athènes était respectée, admirée. Et surtout, quand Athènes n'était pas menacée par son perpétuel ennemi, la ville de Sparte. Ces Spartiates étaient un peu plouques, sommaires. Ils n'avaient pas le raffinement, la culture des Athéniens. Mais ils étaient plus forts, plus malins. Ils étaient en train de gagner la longue guerre qui, depuis près de 70 ans, opposait Sparte et Athènes.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Nous sommes en l'an 405 avant notre ère. L'armée des Spartiates est tout près d'Athènes, à une vingtaine de kilomètres. Les Athéniens sont épuisés, découragés. Et puis, catastrophe des catastrophes, leurs deux immenses poètes, les deux grands auteurs qui les ont tenus en haleine pendant tant d'années, Euripide et Sophocle, viennent de mourir, coup sur coup. Sur le plan politique et militaire, ça n'allait pas fort. Sur le plan artistique, ce n'était pas mieux. Athènes était orpheline en poésie. Cette mort des poètes tragiques était une vraie catastrophe. Les Athéniens étaient fous de théâtre. C'était pour eux comme une drogue. Les grands festivals de comédie et de tragédie étaient des événements majeurs dans la vie de la cité. Les Athéniens y venaient en foule. Et dès que la navigation redevenait possible au printemps, les étrangers aussi. Le public entrait facilement en transe, véritablement transporté par la vitalité colorée des spectacles, leur ampleur, par la virtuosité des acteurs, la puissance des musiques, des danses, des mots. On a du mal à imaginer à quel point c'était entraînant, vivant et profond. Le théâtre était un espace libre où tout pouvait être montré en dehors des cadres convenus. Tout pouvait être examiné, soupesé, exacerbé, sans tenir compte des limites imposées par la politique, le droit, la religion, la morale. On laissait libre cours à l'imagination. Les morts très rapprochées d'Euripide et de Sophocle ont dû être ressenties durement. Avec Eschyle, le vieux poète, qui avait donné toute sa noblesse à la tragédie, et qui était mort bien avant. Ils formaient les grandes références de l'art tragique. Le trio Eschyle, Sophocle, Euripide était déjà vénéré du vivant des deux derniers, alors qu'il y avait une foule d'autres auteurs tragiques, mais paraît-il, ils ne faisaient pas le poids. Euripide, le poète le plus populaire, l'effronté audacieux qui a révolutionné l'art de la tragédie, est mort dans l'hiver 407-406 avant Jésus-Christ. Il est mort en Macédoine, au nord de la Grèce, où il s'était réfugié car les troubles politiques d'Athènes rendaient sa vie peu sûre. Là-haut, en Macédoine, il serait mort à cause des rigueurs de l'hiver. Mais ce n'est que l'une des versions de sa mort. Euripide était tellement célèbre, tellement complexe, tellement ambigu, surprenant, que les légendes se sont multipliées sur son décès. Et voilà que peu de temps après, l'autre très grand poète tragique disparaît, Sophocle, l'auteur d'Antigone, d'Œdipe roi, de Philoctète et de tant d'autres pièces, meurt en 406 avant notre ère. Il était âgé, il avait 90 ans. C'est vieux pour un grec, mais ça ne console pas. Pour Sophocle aussi, on a plusieurs légendes sur sa mort. Si on croit tout ce qu'on a dit dans l'Antiquité, Sophocle serait mort plusieurs fois. On a raconté qu'un jour, un acteur a offert une grappe de raisin à Sophocle.
Sophocle mit dans sa bouche un grain encore vert et son grand âge fit qu'il en mourut étouffé.
Le raisin, offert au vieux poète par un acteur, fait penser à Dionysos, le dieu de la vigne et du théâtre. Cela veut sans doute dire que Sophocle est mort parce que lui, qui était vieux, vintage, n'a pas supporté l'art nouveau, révolutionnaire, et pas encore mûri, acide, qui tentait de s'imposer. Cet art nouveau était celui d'Euripide, son perpétuel rival, qui lui a cherché des noises pendant toute sa carrière. Sophocle était enfin délivré de cet adversaire par la mort d'Euripide, qui a précédé la sienne. Mais Sophocle est mort peu après lui. Une autre version dit que Sophocle est mort non pas étouffé par du raisin, mais par lui-même, à cause de la longueur interminable de ses phrases.
Satyros prétend au contraire qu'il lisait son Antigone et qu'étant tombé finalement sur une phrase longue et qui ne comportait ni point ni virgule permettant la moindre pause, il força trop la voix et perdit ainsi la vie et la voix en même temps.
Le pauvre Sophocle était connu pour avoir une petite voix. Il était microphone, microphonos, et ne pouvait pas jouer ses pièces et même pas les lire. À l'époque, on lisait à voix haute. Sophocle n'a pas résisté à ses propres créations. Rien ne va plus. Les deux grands maîtres de la tragédie ne sont plus là. Ils ont rejoint chez les morts le vieil Eschyle. Ces grands auteurs sont irremplaçables. Ceux qui restent sont, paraît-il, mauvais. On ne saura jamais si c'est vrai. Nous n'avons presque rien conservé des poètes qui ont survécu ou qui ont succédé à Sophocle et à Euripide. Mais ça se disait, c'était mieux avant. Côté politique et militaire, c'est plus que critique. Athènes est au bord de la catastrophe. Encore un an. Et en 404 avant notre ère, Athènes sera vaincue par Sparte. La guerre sera perdue pour les Athéniens. Il faudra capituler. La démocratie défendue par Athènes subira une grande défaite face à Sparte, la ville ennemie de la démocratie, amie d'un gouvernement restreint à un groupe social. Pourtant, Athènes la démocrate s'était bien battue, si on peut dire. Il y avait eu un sursaut, une vraie dynamique, après de grandes crises politiques. La démocratie avait été remplacée pour un temps par des tentatives de gouvernement restreint, oligarchique. Mais ces tentatives ont échoué. Et les adversaires de la démocratie avaient même été privés de leur citoyenneté. Puis, Athènes s'était ressaisie militairement. Elle avait même remporté une grande victoire avec ses bateaux. Les Athéniens ont su armer une flotte en quelques semaines pour aller porter secours à l'un de leurs chefs que les Spartiates bloquaient dans le port de Mytilène, sur l'île de Lesbos. Athènes a même pris une décision extraordinaire, accorder la citoyenneté athénienne aux résidents étrangers, ceux qu'on appelait alors les métèques, sans la valeur péjorative que prend ce mot aujourd'hui, et même aux esclaves, qui participeraient à l'effort de guerre en s'enrôlant sur les navires. Les Athéniens ont engagé une grande bataille et l'ont gagnée, en ne perdant, dit-on, que 25 navires, les Spartiates 75. Mais juste après ce succès, une grande tempête s'est levée et les Athéniens n'ont pas pu repêcher les survivants des 25 navires coulés et n'ont pas pu récupérer les cadavres des morts, qui ont ainsi été condamnés à n'avoir jamais de sépulture. D'un point de vue religieux, c'est un scandale. Les généraux victorieux, une fois rentrés à Athènes, n'ont pas été célébrés ou félicités, mais sont passés en procès. Les familles en deuil ont réclamé leur mort. Ceux qui ne s'étaient pas échappés ont été exécutés. Athènes avait été victorieuse, mais elle s'est auto-mutilée. Ça n'allait que se dégrader. Pourquoi je raconte tout cela? Pourquoi me fixer sur cette année 405 avant Jésus-Christ? C'est parce que juste après toute cette histoire mouvementée, juste après les disparitions d'Euripide et de Sophocle, il y a eu en l'an 405 un grand événement théâtral. Il y a eu une comédie qui a fait le point sur la situation militaire, politique et poétique d'Athènes. Cette comédie a été écrite par Aristophane. Elle s'appelle « Les grenouilles », une pièce extraordinaire, comme toutes les comédies d'Aristophane, en fait.
Sylvana Milanesi, professeure d'histoire grecque.
La comédie, c'est le monde à l'envers, c'est le monde du plaisir, et les rires, c'est les plaisirs partagés, un rire construit par les poètes qui guident les publics dans ces vastes chemins.
France Inter. quand les dieux rôdaient sur la terre.
Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Oui, vous m'avez compris, je parle de ce vent qui sort du trou de Baale, de ce très curieux bruit qui monte incongrûment parfois dessous la table, qui va pétaradant sous la soie ou la toile, qui fait rire les enfants et s'esclaffer le diable. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Ce chanteur pompe l'air, ses paroles sont creuses, sa musique minable. Dans sa sonne d'enfer, il gonfle les joyeuses des spectateurs affables. Soudain du premier rang, au milieu d'un silence, quelqu'un se lève et oh, jette une flatulence. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Je suis transi près d'elle, je lui fais tendre cours dans son petit boudoir. Mes yeux dans ses prunelles, je lui parle d'amour de ma bouche guitare. Tout à coup, patata, adieu, heureuse exquise. Ça ne se commande pas, je lui lâche une Louise. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Un jour à la télé, en royaume d'absurdie, sur la septième chaîne, je rêve qu'un PPD, qu'un Yves Mouzouri, qu'une Christine obscène. En guise de journal, pour les Dupont qui bouffent, je sais c'est un scandale, leur balance une louffe. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? À tous ceux qui me gueulent, demi-tour gauche, une, deux, rallie mon blanc panache. À tous les vats de la gueule, tous les beaufs, les hargneux, les adultes, les vaches. Pas un mot, pas un cri, je garde les lèvres closes. In petto, je souris, j'ai trouvé autre chose. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Quoi de plus redoutable qu'un paix ?
Pierre Judet de la Combe nous emmène aux enfers pour rire avec le comique Aristophane et ses grenouilles.
Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Dans ses grenouilles, Aristophane imagine que le dieu du théâtre, Dionysos, est accablé par la mort d'Euripide, son poète préféré. Il ne supporte pas son absence et veut absolument voir de nouvelles tragédies de lui. Il n'y a qu'une seule solution, aller chercher Euripide sous terre, dans les enfers, et le faire remonter à l'air libre, à la lumière, pour qu'il se remette à produire des spectacles. La difficulté, c'est que les enfers, Dionysos ne sait pas comment y aller, et ça fait peur. On raconte des tas de choses sur les eaux glauques qu'il faudrait traverser, sur les monstres qui y pullulent, comme l'affreux chien Cerbère, avec toutes ses têtes dévorantes. Et puis Dionysos n'est pas très costaud. Il est bedonnant, à force de boire et de faire la fête. Il est plutôt féminin. Il ne peut pas affronter ce monde inconnu, mais il tient absolument à ramener Euripide chez les vivants. Mais comme toujours, le dieu de l'illusion du théâtre se déguise. Il prend les accessoires de son demi-frère Héraclès, la massue, et la peau du lion de Némée, ou plutôt une imitation, pas la vraie. Il va essayer de se faire passer pour le grand et fort et terrifiant Héraclès, car Héraclès, lui, est bien arrivé à entrer dans les ténèbres affreuses des enfers, à enchaîner le chien Cerbère et à le traîner jusqu'à la surface de la terre, avec obligation de le rendre, car sur terre, ce chien ne pouvait servir à rien. Dionysos pense qu'il va impressionner tout le monde aux enfers, les gardiens et même Pluton, le dieu qui règne là-bas. En fait, Dionysos porte un double déguisement, l'un sur l'autre, comme acteur de tragédie, avec une robe de safran et des cothurnes, des chaussures hautes, et un déguisement d'Héraclès avec la massue et la peau de lion. Dionysos est vraiment insaisissable. Il faut absolument qu'il voie Héraclès, son demi-frère, car il n'a aucune idée du chemin à prendre pour aller en bas. Héraclès devrait le renseigner. Il chemine vers la maison d'Héraclès avec son esclave Xanthias, comme Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza. Xanthias porte un lourd bagage à l'épaule. Le voyage sera long. Xanthias se plaint évidemment du poids qu'il porte et menace d'exprimer sa souffrance par un vacarme retentissant, issu de ses entrailles, ou pire. Il demande à Dionysos la permission de péter, comme ça se fait si souvent dans les comédies. Mais Dionysos lui rétorque que c'est vulgaire, que le théâtre qu'il aime est raffiné et évite ses grossièretés. Mais évidemment, à force de dire ce qu'il ne faut pas dire, on finit par le dire, et même de manière insistante. C'est le tout début de la pièce.
Xanthias.
Est-ce que je peux dire, maître, l'un des mots habituels qui font chaque fois rire les spectateurs ? Dionysos.
Oui, nom de Zeus, ce que tu voudras, sauf j'ai la pression. Fais attention, aujourd'hui il n'en sort que de la bile.
Et pas quelque autre mot raffiné ?
Tout, sauf je vais lâcher.
Mais alors quoi ? Je peux dire le mot absolument drôle ?
Au nom de Zeus, oui, prends ton courage. Tâche seulement de ne pas dire cette chose-là.
Quelle chose-là ?
Qu'en changeant ton porte-charge de côté, tu as envie de chier.
Et pas que, devant porter sur moi un fardeau si grand, si on ne me l'enlève pas, je péterai jusqu'au bout ?
Non, je t'en supplie, sauf si je dois vomir.
Mais alors, pourquoi devais-je porter ce bagage si je ne peux rien faire de ce que les phrynikos font d'habitude, et les lykis et les amipsias, chaque fois qu'ils portent un bagage dans une comédie ?
Non, n'en fais rien, car quand je suis spectateur et que j'assiste à ces finesses, je ressors vieilli de plus d'une année.
Dionysos et Xanthias arrivent à la maison d'Héraclès, qui éclate de rire quand il voit Dionysos, son demi-frère, accoutré comme il est. Dionysos lui explique l'objet de sa visite. D'abord, il doit lui dire qu'il est pris d'un manque irrépressible, immaîtrisable, d'Euripide, qui vient de mourir. Comme il sait qu'Héraclès est un peu brut, un culte, qu'il ne s'intéresse pas à la poésie, mais plutôt à la nourriture, il doit trouver le moyen de se faire comprendre. Dionysos lui raconte qu'il venait de participer à une immense bataille navale, sans doute celle que les Athéniens venaient de gagner contre les Spartiates. Il a coulé 12 ou 13 navires, puis, sur son bateau, il s'est mis à lire une pièce d'Euripide, Andromède. C'est là qu'un désir frénétique l'a pris.
Héraclès.
Tu t'es battu sur mer ? Dionysos.
Eh oui, nous avons mis par le fond 12 bateaux ennemis, ou 13.
Vous deux ?
Oui, au nom d'Apollon. Et voilà que sur le bateau, alors que j'étais en train de lire Andromède, tout d'un coup, en moi, un désir vint me cogner le cœur avec la véhémence que tu imagines.
Héraclès n'imagine pas du tout. Il pense à une autre forme de désir. Dionysos devra le guider pas à pas.
Un désir ? De quelle dimension ?
Petit, comme l'est l'acteur Molon.
D'une femme ?
Mais non.
Alors d'un garçon ?
Pas du tout.
Alors d'un homme ?
Non, de nom, de nom.
Tu es allé avec Clisthène ?
Ne te moque pas, mon frère, non, car je vais mal. Je suis dévasté par une telle passion.
Quelle sorte de passion, mon petit frère ?
Je ne sais pas le dire, mais pourtant je le dirai par énigme. T'est-il déjà arrivé d'avoir, tout d'un coup, une envie de purée ?
De purée ? Misère, 10 000 fois dans ma vie !
T'instruis-je clairement ou dois-je parler autrement ?
Non, ça va. Pour la purée, je comprends tout.
Eh bien donc, me dévore un semblable désir d'Euripide.
Tu veux dire de celui qui est mort ?
Et personne chez les hommes ne me persuadera de ne pas aller le chercher.
Héraclès est étonné. Il y a tellement d'auteurs de tragédies à Athènes et ils pullulent. Dionysos devrait facilement trouver son bonheur chez les vivants. Mais, selon Dionysos, ils sont tous nuls.
Mais, à part ça, ne trouve-t-on pas ici des petits mignons, par milliers et plus, qui écrivent des tragédies et qui, en bavardage, devancent Euripide de plus d'un stade ?
C'est de la petite grappe et des babilleurs, de la muse d'hirondelle, des outrageurs de l'art. Ils s'en vont au plus vite. Pour peu qu'ils obtiennent un cœur, dès qu'ils ont une seule fois compissé la tragédie. Cherche et tu ne trouveras plus un poète généreux, un qui sache faire sonner un verbe noble.
Dionysos doit expliquer à Héraclès, l'ignorant, ce qu'est un poète généreux. C'est un poète qui ose, qui n'a pas froid aux yeux, qui trouve des images étonnantes et construit des phrases compliquées.
Comment ça, généreux ?
Généreux, cela veut dire qu'il prononce une parole risquée comme celle-là. Azur, la petite chambre à coucher de Zeus, ou le pied du temps, ou l'esprit se refusant quant à lui à jurer sur les offrandes, quand la langue, quant à elle, se parjure séparée de l'esprit.
Et toi, ça te plaît ?
Ne dis pas ça, j'en suis plus que fou.
Mais ce sont de mauvaises farces et tu le penses aussi.
Ne viens pas prendre maison dans mon esprit, tu as ton chez-toi.
Tu sais, cela pour moi est tout simplement totalement minable.
L'avant-garde littéraire ne peut pas plaire à un gros rusto comme Héraclès. Dionysos demande à Héraclès de lui indiquer le chemin pour aller dans les enfers, par où il faut passer, et les aires de repos, les boulangeries, les bordels, les auberges où il y a le moins de punaises dans les lits. Héraclès lui répond que le chemin le plus court pour aller chez les morts, c'est le suicide. Mais Dionysos n'est pas d'accord. Alors Héraclès lui trace la route. Il annonce le fleuve à traverser sur une petite barque, puis les monstres, les serpents, la fange où croupissent les pires criminels. Puis viendra un moment de lumière, de chant et de flûte. Dionysos rencontrera des fidèles, des fervents de lui, le dieu, des initiés au mystère de Bacchos Dionysos, qui lui indiqueront le chemin. Dionysos n'a pas peur et s'en va avec Xanthias. Comme l'avait annoncé Héraclès, il tombe d'abord sur une eau sombre, un fleuve, qui longe le pays des morts. Il faut le franchir sur une barque en payant 2 oboles pour le passage. Et en plus, il faut ramer soi-même. Dionysos s'installe sur la barque et à peine a-t-il commencé à ramer qu'il entend un chant, le chant des grenouilles. Ce chant commence par un vrai couac, puis devient très raffiné. Mais Dionysos ne le supporte pas. Assis dans sa barque, il rame. Il s'use le derrière et il en a assez.
Fille des sources paludéennes, le cri des champs avec ses flûtes, prononçons-le, ma poésie, bellement vocalique. Que pour le dieu de Nysa, Dionysos, fils de Zeus, au palud, en fait, nous crions quand la clique migraineuse des bourrées, au jour des peaux sacrées, pénètre mon enclos sacré en foule citoyenne.
Brekekekex, quax, quax.
Dionysos.
Oui, mais moi je commence à pâtir du cul. Au coax, coax.
Brekekekex, quax, quax.
Pour vous, sans doute, ce n'est nul souci.
Brekekekex, coax, coax.
Mais crevez jusqu'à la dernière avec ce coax, car vous n'êtes que du coax.
Et c'est non sans raison, oh l'agité, car me ravissent les muses et leurs belles lyres, et Pan le monté sur corne, enfantilleur au son de calame, et Apollon le citariste nous fait surjouir à cause du roseau que pour tenir le dessous des lyres, aquatique dans les paludes nous cultivons.
Oui, mais moi, j'ai des cloques. Et l'anus me sue depuis un moment. Si bien que bientôt, tout penché, il sortira et dira...
Les grenouilles chantent leur dieu Dionysos, avec toutes les grâces musicales possibles. Mais elles ne reconnaissent pas ce dieu dans le rameur qui râle à se fatiguer dans sa barque et qui menace non pas de chanter, mais de laisser parler son postérieur. La musique n'adoucit pas les mœurs.
Pierre Desproges.
Elle est assez bornée pour les choses de la vie, mais elle a quand même une qualité qui est exceptionnelle chez les grenouilles, c'est que Fifine sait compter.
Vous l'avez dressée à compter ?
Elle sait compter, elle sait faire des opérations simples, évidemment, peut-être pas des racines carrées, parce qu'elle n'a pas encore déjeuné, donc elle est un petit peu faible d'esprit, mais enfin, elle peut quand même...
Alors, 1 et 1, c'est la réponse.
Fifine, 1 et 1.
Ça, c'est exceptionnel.
Oui, c'est intéressant.
Mais on va compliquer un peu, alors est-ce que les fortes en histoire de France...
Vous voulez qu'elle vous donne
la date de la bataille de Marignan.
La date de la bataille de Marignan. Fifine, la date de la bataille de Marignan. Allez.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe raconte Dionysos, parti dans les enfers à la recherche de son poète favori, Euripide.
Dionysos débarque. Il se conchit d'effroi parce qu'un monstre surgit de l'ombre. Puis vient un vrai moment de beauté et de bonheur. Un cœur de personne initiée au mystère de Dionysos. Un cœur lumineux chante les louanges de leur dieu. Elles appellent ce dieu. Lui demande de les rejoindre, mais elle ne le voit même pas, que Dionysos est déjà là, devant elle. C'est vrai qu'il s'est déguisé en Héraclès. Décidément, la musique religieuse est totalement à côté de la plaque, coupée du réel. Aristophane rigole. Dionysos et Xanthias vont enfin entrer dans le palais du maître des enfers, le dieu Pluton. Le problème, c'est que Dionysos s'est déguisé en Héraclès, et qu'Héraclès a laissé un très mauvais souvenir lors de son passage dans les enfers. Il avait enlevé le chien Cerbère, et il avait mangé tous les stocks d'une auberge sans payer. À peine Dionysos a-t-il frappé à la porte en se présentant comme Héraclès le fort, qu'il suscite la colère virulente du portier. Il se conchit une seconde fois.
Dionysos.
Petit. Petit. Le portier.
Qui est-ce ?
Héraclès le fort.
Oh, toi, empuanti, impudique, insolent, et salaud total, et salissime, toi qui emporta notre chien à nous, Cerbère, qui le garrotta, couru pour filer avec quand j'en avais la garde. Maintenant tu es cerné, car si haute la pierre au cœur d'ombre du Styx et le rocher de l'Achéron qui fait sourdre le sang te surveille, et les chiens tournoyants du Cocyte et la vipère aux 100 têtes qui t'écartèlera les entrailles. À tes poumons s'accrochera une murène à la tartésienne, et tes deux rognons baignant dans leur sang avec tes entrailles, les femmes du faubourg de Titras, les gorgones, les disperseront, elles vers qui moi je fais saillir un pied qui court.
Xanthias à Dionysos.
Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?
J'ai fait sacrifice de ma merde.
Dionysos essaye de passer le costume d'Héraclès à Xanthias pour qu'il se fasse casser la figure à sa place. Mais ça ne marche pas vraiment. Le dieu prend des coups. Finalement, comme on ne sait pas qui est le dieu et qui est l'esclave, on les laisse entrer tous les deux. Dionysos et Xanthias dans la maison du dieu Pluton, qui tranchera. À ce moment précis, quand les portes de la maison des morts vont enfin s'ouvrir pour Dionysos, la fiction comique s'arrête brutalement. Le drame marque une pause pour quelques minutes. Le cœur, au lieu de continuer à faire le clown avec ses chants invraisemblables, devient tout d'un coup sérieux et parle politique. Il intervient directement dans les débats très vifs, très tendus de l'année 405. Le chef du chœur, le coryphée, s'avance vers les spectateurs et fait un discours où il donne son avis sur des décisions politiques récentes. Il trouve qu'il faudrait rendre leur citoyenneté aux Athéniens qui ont participé aux entreprises de destruction de la démocratie et qui ont été finalement vaincus. Ces antidémocrates étaient braves, utiles, de bonne famille. Il faut les réintégrer, dit le coryphée. Il dit encore que les démocrates ont sans doute eu raison de donner la citoyenneté aux étrangers et aux esclaves qui ont participé à la grande bataille navale gagnée par Athènes. Mais c'est absurde, ignoble même, de l'enlever à ceux qui sont athéniens depuis toujours. La cité a besoin de tout le monde, tant la situation cette année-là est critique. Par la bouche de son chef de chœur, Aristophane donne un avis très clair et vigoureux à son public.
Maintenant donc, ô vous les idiots, changez de manière. Refaites usage des gens d'usage. Si le succès est là, c'est la gloire. Et si vous devez vous étaler, noble au moins sera la bûche s'il vous arrive malheur. C'est ce que les sages penseront de votre mal.
Et les Athéniens vont s'étaler l'année d'après. Ils seront sévèrement défaits par les Spartiates. Mais l'avis d'Aristophane aura été entendu. Les Athéniens qui s'étaient opposés à la démocratie seront réintégrés. La comédie pouvait donc faire de la politique directement, sans cesser d'être de la comédie. Ce n'était en rien incompatible. La fantasmagorie comique, avec le cœur des grenouilles, avec les enfers peuplés de monstres, avec les fantômes d'Euripide et d'Eschyle qui vont bientôt apparaître sur scène, a quelque chose de commun avec la critique politique radicale de la réalité d'Athènes telle qu'elle est. Fantasmagorie et critique politique sont solidaires. Ce sont deux moyens de se libérer de la réalité du moment qui est mauvaise. La critique désigne les défauts d'Athènes et dit ce qu'il faut faire pour y remédier. L'imagination comique, avec ses labyrinthes incongrus, avec ses délires imprévisibles, ouvre sur un autre monde où tout ce qu'on peut reprocher à Athènes n'existerait pas, serait dépassé. Un monde libre. Après cette tirade politique, d'un seul coup, le drame reprend. Dionysos entre enfin dans la maison du dieu Pluton, le dieu des morts. Il arrive au but de son voyage. Il pense qu'il va retrouver Euripide et pouvoir le ramener chez les vivants. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Un grand tintamarre éclate. Ça hurle de partout. En fait, une querelle immense vient de se lever. Euripide, le nouveau venu chez les morts, prétend enlever au vieux poète Eschyle le poste de responsable de la tragédie dans les enfers, le poste très prestigieux de premier poète tragique chez les décédés. Eschyle, qui occupe ce poste depuis des dizaines d'années, n'est évidemment pas d'accord pour laisser sa place. Il n'a que du mépris pour le nouveau poète Euripide, qui, selon lui, a complètement dénaturé la tragédie, qu'il a corrompue. D'ailleurs, parmi les morts, ce sont les filous et les escrocs qui soutiennent Euripide. Un duel va avoir lieu. Les deux poètes vont se battre, à coups de citations, de parodies, de déclarations sur l'art tragique. Et, surprise, le dieu des enfers, Pluton, demande à Dionysos, le dieu du théâtre, d'arbitrer le combat puisqu'il est là. C'est lui qui s'y connaît le mieux en art tragique. La lutte va s'engager. Elle sera savante et rude. Ça chauffe tout de suite. Les deux combattants, Eschyle l'ancien et Euripide le moderne, se haïssent. Durant leur vie, ils ne se sont jamais combattus, pièce contre pièce, tragédie contre tragédie. Euripide a commencé sa carrière juste après la mort d'Eschyle, enfin dans les enfers, après leur mort à tous les deux. L'occasion est donnée de les entendre se disputer.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Les bavards pépis, chapelet d'oisillons sur un arbre blotti au matin qui sent bon. Ils se déligazouillent, murmurent leurs états d'âme, font vibrer leurs bafouilles, fanfaronnent, nous exclament. Les bavards tricotent à l'endroit, à l'envers, des pelotes de mots qui dénouent pour en faire des histoires en cohorte, à tort et à travers, des roses ou bien des noirs, des graves ou des légères. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Si le silence est d'or, alors ils n'ont plus rien qu'un manteau de parole sur leur peau de chagrin. Dans l'ascenseur coincé, comme les bavards jubiles, jamais à court d'idées ou de propos futiles pour dire le temps qu'il fait ou la fraîcheur du soir devant l'autre qui se tait mais n'a plus peur du noir. Les bavards mutins babillent dans l'amour sous des draps de satin en causant sans détour et du flot continu. Quelle douce litanie dont parfois des mots crus s'évadent au creux du lit. Oublient même leurs enfants sur les aires d'autoroute. L'espace et le bus ou la fin du feuilleton. On les retrouve parfois pendus au fil de la conversation. Les bavards s'endorment en récitant tout haut des poèmes chloroformes ou des moutons pâteaux. En jambes un peu hagards, des montagnes de mots et des phrases et des lettres 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 et des phrases et des lettres. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
Pierre Judet de Lacombe relate la lutte féroce entre deux poètes de tragédie, Eschyle et Euripide.
Euripide, le plus jeune, attaque le premier. Il reproche à Eschyle d'avoir fait du lourd, de l'incompréhensible, du pénible. Eschyle voulait être sublime, impressionnant, et a inventé n'importe quoi pour que le public soit surpris et captivé. Par exemple, il laissait ses personnages longtemps sans parler, sous un voile, dans un silence énigmatique. Puis tout d'un coup, Il déchaînait des flots de paroles que personne n'avait jamais entendues. On ne parlait que de guerre, d'armes, de vaillance virile, avec des mots inconnus.
Euripide.
Pour commencer, il prenait un seul acteur, le faisait asseoir, voilé, Achille ou Niobé, comme tu voudras, sans montrer son visage, juste un décor pour sa tragédie et qui murmurait que dalle. Dionysos.
Non, c'est vrai, nom de Zeus, rien.
Et le chœur plantait quatre rangées de chants à la suite, sans s'arrêter. Et eux se taisaient.
Mais moi, j'avais plaisir à ce silence. Et il ne me charmait pas moins que les bavards d'aujourd'hui.
C'est que tu étais un imbécile. Sache-le.
C'est ce que je pense aussi. Mais pourquoi il faisait cela, ce qui qu'il soit?
Par imposture, pour que le spectateur reste assis et attende le moment où la Niobé ouvrirait la bouche. Et le drame avançait.
Oh, le totalement salaud. Comme il savait me posséder.
À Échille.
Pourquoi te tortilles-tu et fais-tu l'inquiet, Euripide?
Parce que je le réfute entièrement. Après avoir fait ses sottises et que le drame en arrive à sa moitié, il disait une douzaine de mots de bœuf, montés de sourcils et d'aigrettes, d'effrayantes grimaceries inconnues du public.
Échille.
Hélas, mon malheur.
Tais-toi, Euripide.
Mais de compréhensible, rien. Pas un mot. Dionysos à Échille.
Ne te rabote pas les dents. Euripide.
Mais rien que scamandre, fossé et sur des emblèmes, aigle crochu forgé des reins et des paroles dressées sur des chevaux. Pas facile à comprendre.
Euripide était au contraire pour un art simple, proche des gens normaux, avec des personnages qui parlent comme eux, qui s'intéressent à la vie normale, quotidienne. Il voulait leur apprendre à parler. Pour ça, il mettait beaucoup de science dans ses pièces, après avoir lu beaucoup de livres. Mais il les rendait simples, pas prétentieux, pas bégueule. Il s'est fait aider pour ses mélodies par l'amant de sa femme, un dénommé Céphisophon. Euripide était libre.
Mais du jour où de toi j'ai reçu le métier, du tout premier jour, alors qu'il était enflé d'emphase et de fardeaux de mots, je l'ai fait sécher tout d'abord. Et je lui ai enlevé du poids par des réductions de verre, des promenades et de la poirée blanche. Je lui ai donné du jus de Babil en tamisant des livres. Et puis, je l'ai remonté avec des solos en y mélangeant du Céphisophon. Et puis, je ne racontais pas n'importe quoi, ni ne brouillais tout par mes assauts. Mais je faisais dire au premier acteur qui sortait tout de suite l'origine du drame.
Échille.
Et ça valait mieux, nom de Zeus, que de dire la tienne.
Euripide.
Et puis, dès les premiers vers, je ne laissais personne sans rien faire. Mais la femme, pas moins que l'esclave, avait à parler. Et le maître, et la vierge, ou la vieille, selon.
Échille.
Et avec ça, on ne te forçait pas à mourir pour toutes ces audaces?
Euripide.
Mais par Apollon, c'était démocratique ce que je faisais. Dionysos.
Laisse tomber, cher ami. Une petite promenade sur ce thème ne te ferait pas beaucoup de bien.
Résultat, les Athéniens, à cause d'Euripide, savent parler, communiquer, raisonner, questionner, argumenter. Ils n'obéissent plus aux ordres de la cité. Ils perdent un temps fou à peser le pour et le contre. Par exemple, ils ne savent plus faire avancer droit en ramant en cadence la grande galère de l'État, qu'on appelait la parallienne. Ils discutent démocratiquement et la galère n'avance pas. Avec Échille, c'était plus discipliné, plus rigoureux.
Échille.
Et puis, tu leur as enseigné à pratiquer le bavardage et le jacassage, qui ont totalement vidé les gymnases et usé à fond les fesses des garçons jacassants. Et tu as convaincu les marins de la parallienne de répliquer à leur chef, tandis qu'à l'époque, quand je vivais, ils ne savaient que demander leur pain et dire « souk et souk et souk ». Dionysos.
Oui, nom d'Apollon, et à péter dans la bouche de celui du rang de dessous, à merder sur le camarade et à terre, à dépouiller les gens. Maintenant, ils controversent, et sans plus ramer, ils voguent de ci et voguent de là.
Bref, selon Échille, si Athènes en est où elle est, à deux doigts du désastre, c'est qu'un poète comme Euripide a corrompu les Athéniens en leur apprenant l'art de la dispute, de l'argumentation sans fin. Les citoyens ont perdu le sens de l'action, de l'urgence, du bien commun. L'art est responsable de cette décadence. Puis, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut juger sur pièce et examiner la technique de chacun des poètes. Eschyle essaye de montrer qu'Euripide ne sait pas composer ses vers. À chaque vers, ou presque, on peut ajouter n'importe quoi. Par exemple, une gonflette. Avec ce mot « gonflette », Eschyle désigne un petit vase au col allongé de forme phallique.
Eschyle.
Eh bien, par Zeus, je ne vais pas racler vers après vers chacun de tes mots. Mais avec l'aide de Dieu, d'un coup de gonflette, j'anéantirai tes prologues.
Euripide.
Des gonflettes, toi, mes prologues.
Eschyle.
Et d'une seule, car tu composes de telle manière que tout s'adapte, barbichette, ainsi que gonflette, ainsi que boursette, dans tes vers iambiques. Je te le montre tout de suite, Dionysos.
Regarde-moi ça. Tu vas le montrer, Eschyle.
Oui, Dionysos à Euripide.
Maintenant, il te faut dire. Euripide, lisant le début d'une de ses pièces.
Égyptos, comme nombreuse s'en est répandue l'histoire, avec 50 fils, quand la rame des marins l'eut conduite à Argos.
Eschyle.
Égara sa gonflette. Dionysos.
C'est quoi cette gonflette? Qu'il en gémisse. Dis-lui un autre prologue, que je me rende compte à nouveau. Euripide.
Dionysos, saint de Tyrse et de peau de faon, qui, au milieu des pins, à travers le Parnasse, bondit dans sa danse.
Eschyle.
Égara sa gonflette. Dionysos.
Oh malheur, nous sommes frappés à nouveau d'un gonfleur.
Et ça continue. Chez Eschyle, ce n'est pas mieux. Eschyle était très célèbre pour ses grands chants de cœur, très solennels. Euripide va lui montrer que ce ne sont que des bruits, toujours les mêmes, comme si se répétait toujours la même musique, qui, en plus, était obscène. Euripide récite des bouts de chants tragiques d'Eschyle. Ils sont ampoulés et dépourvus de sens. Euripide imite par une onomatopée bizarre, toflatotrat, toflatotrat, le son de la cithare qui accompagne le chant. En fait, cette onomatopée se laisse très bien interpréter.
Euripide.
Je sais dire comment le pouvoir des Achéens et ses deux trônes régnant sur la jeunesse grecque.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Envoie la sphinge, chienne qui administre les jours mauvais.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Avec la lance et le bras vengeur, un oiseau fou de guerre.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Qui offre une aubaine aux chiens ardents, rôdeurs de l'air.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Ainsi que la faction inclinant du côté d'Ajax.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Vient la dernière épreuve. Il faut savoir quel poids ont les mots d'Eschyle et d'Euripide. Lesquels comptent vraiment, sont les plus lourds. On apporte une grande balance. Et comme Zeus, dans l'Iliade, pèse dans sa balance les destins d'Hector et d'Achille, on pèsera les vers d'Eschyle et d'Euripide. Euripide dépose dans le plateau de la balance des vers élégants, subtils, où il est question d'envol, de persuasion, de jeu de dés, pas bête. Eschyle met dans la balance des vers bien lourds, avec des bœufs mouillés, des chars et le mal le plus pesant, la mort. Eschyle gagne à chaque fois. Dionysos est toujours amoureux de l'art d'Euripide, mais les réponses du vieil Eschyle l'ont impressionné. Il ne sait pas qui choisir, qui déclarer vainqueur. Arrive un coup de théâtre. Le dieu Pluton, le maître des enfers, fait une annonce. Dionysos, dit-il, pourra ramener parmi les vivants à Athènes le poète qu'il aura désigné comme le meilleur. Dionysos dit alors pourquoi il est descendu parmi les morts. On comprend alors clairement que politique et poésie, c'est la même chose. Le plaisir de pouvoir assister à de belles tragédies et le salut de la cité vont ensemble, c'est la même cause. La cité ne pourra organiser de vrais et beaux spectacles que si elle est sauvée.
Dionysos.
Je suis descendu à la recherche d'un poète. Dans quel but? Pour que la cité, si elle est sauvée, organise des chœurs. Quiconque de vous deux va conseiller à la cité quoi que ce soit d'utile, je décide de le prendre.
Dionysos va mettre les deux adversaires à l'épreuve, non pas avec des questions d'art théâtral, mais des questions politiques. Dionysos leur demande ce qu'il faut faire pour sauver Athènes, qui est à deux doigts de l'effondrement. les poètes se font conseiller politique. Euripide répond d'abord par une fantaisie comique, une attaque aérienne des bateaux spartiates. Il propose qu'on donne des ailes à un Athénien et des burettes de vinaigre. Il irait par les airs les verser sur les yeux des Spartiates. Puis Euripide se ressaisit. Il avoue que les burettes, c'est une idée de l'amant de sa femme. Et il donne son avis, qui est un peu tordu. Puisque les dirigeants sont désastreux, il faut tout simplement les changer et faire l'inverse de ce qu'ils font.
Euripide.
Si aux citoyens à qui va notre confiance aujourd'hui, nous ne faisions pas confiance, et si de ceux dont nous ne faisons pas usage, nous faisions usage, le salut serait pour nous. Puisqu'en cela nous sommes malheureux, comment, si nous faisons le contraire, ne serions-nous pas sauvés ?
C'est du vrai Euripide. Tout reposerait sur l'accord entre citoyens grâce à la persuasion, au langage. Eschyle est plus géopolitique, plus global. Il donne un avis sensé. Athènes doit renoncer à reconquérir les terres qui lui appartiennent et que les Spartiates occupent. Athènes doit attaquer par la mer Sparte, là où elle s'y attend le moins. Il faut être pragmatique et renoncer à défendre pied à pied la terre sacrée de la patrie. Dionysos est convaincu par cette proposition. Il choisit donc Eschyle. C'est lui qui remontera la lumière et fera du théâtre à Athènes. C'est un renversement total de son projet initial. Il était venu chercher Euripide et il remonte avec Eschyle. Euripide est furieux. Pluton confie une mission à Eschyle, qui va retrouver les citoyens d'Athènes. Il lui donne une épée tranchante pour que des dirigeants politiques importants s'envoient au plus vite dans la maison des morts, le royaume de Pluton. Eschyle, le poète tragique, devra se faire aussi cruel que l'est un poète de comédie, avec ses injures féroces. Est-ce qu'Aristophane pense vraiment que la tragédie à l'ancienne d'Eschyle peut sauver Athènes ? Sans doute pas. La force d'Eschyle, le poète de la violence des mots, de l'intransigeance, vient de ce qu'il témoigne d'un passé glorieux, énergique et victorieux d'Athènes. Son retour, depuis les ombres du passé, serait un choc salutaire. La poésie qui gagne vraiment, celle qui sait montrer réellement où en est la cité, qu'il faut rééduquer, est la comédie. Avec le rire, tout peut être analysé, montré, mis à distance. Les idéologies, les appartenances exclusives s'effondrent. Et on est content, libéré. Le comique prime. Eschyle, Euripide, d'un côté, Eschyle qui force les choses, le monde, par ses mots vigoureux. De l'autre, un Euripide qui s'amuse à surfer sur les incohérences, les ambiguïtés du monde. Leur opposition pourrait-elle être actuelle ? On pourrait dire pour le théâtre, Bertolt Brecht, le si souvent sérieux dans le rôle d'Eschyle. Et en Euripide, Samuel Beckett, qui sait mettre des ailes à tous les mots qu'il emploie. En poésie, René Char, le rocailleux, face à Henri Michaud, au magnifique dérapage intérieur. En musique, les Rolling Stones, bien carrés malgré leur nom, face au Velvet Underground. Dans une autre discipline artistique, Eric Cantona, bien solide à Manchester, face au jeu si euripidéen de Kylian Mbappé. Chacun peut faire sa liste. L'important est d'avoir les deux ensemble. Et ça, c'est la comédie, avec son humour qui se mêle de tout, sans préjugés, qui le permet. Telle est la leçon d'Aristophane.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Anna Massardier. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Benjamin Vignal. Et le mixage par Stéphane Touvenin. La semaine prochaine, nous voyagerons avec Europe, la princesse venue d'Asie.